BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Couder, Good Evening Business.
L'économie française en bonne forme. Le PIB a progressé de 0,3% au deuxième trimestre, selon la première estimation de l'INSEE publiée ce matin. C'est plutôt le haut de la fourchette. L'activité a été bien plus vigoureuse que prévu entre avril et juin. Et on va en parler ce soir avec Denis Ferrand. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Institut Rexecode. Cette estimation de croissance, c'est une bonne surprise ?
C'était déjà la prévision qu'avait fournie l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture quand elle disait 0,3% de croissance attendue pour le deuxième trimestre, mais également pour le troisième trimestre, en intégrant notamment au troisième trimestre des effets liés aux Jeux Olympiques, des effets qui sont liés à la billetterie, qui sont liés aussi à la vente de services de télévision. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'éléments conjoncturels qui contribue à ce bon chiffre. Bon, au deuxième trimestre, c'est à la vente d'un paquebot. Il y en aura encore un autre au troisième trimestre, plus donc les effets JO. Donc voilà, des effets ponctuels positifs qui sont favorables.
C'est également le commerce extérieur, nous dit l'INSEE, qui a boosté l'économie française au deuxième trimestre.
Oui, tout à fait. Les exportations sont le principal contributeur à la croissance. Donc, il y a la vente d'un paquebot, comme je le disais. Il y a aussi le flux habituel d'exportation. Et il y a notamment un secteur qui tire son épingle du jeu actuellement, et on va comprendre très facilement les raisons. Hein, c'est l'industrie de la défense, dont on voit qu'il se démarque assez nettement du point de vue du climat conjoncturel du reste des secteurs industriels, parce que on connaît les conflits et on entre dans le moment où il y a des livraisons d'armes qui s'effectuent, et ça contribue fortement à la dynamique des exportations.
Denis Ferrand, ces chiffres publiés ce matin par l'INSEE rendent plutôt optimiste Bruno Le Maire qui estime maintenant qu'on peut s'attendre potentiellement à une croissance annuelle plus élevée que ce que prévoit le gouvernement, c'est-à-dire un objectif de 1%. Est-ce que selon vous, on pourra aller au-delà d'1% de croissance pour 2024 ?
Pour 2024, alors le 1%, il est déjà dans ce que l'on appelle l'acquis de croissance, c'est-à-dire que quel serait le niveau de la croissance si, lors des deux derniers trimestres qui restent à couvrir, eh bien, il n'y avait plus du tout de croissance, si on restait au même niveau de PIB que ce que l'on a atteint au deuxième trimestre, eh bien, à ce moment-là, on ferait automatiquement 1%. Donc, pour ne pas faire 1%, il faudrait qu'il y ait une baisse du niveau d'activité qui intervienne. Cette baisse, il y en aura probablement une au quatrième trimestre, mais ne compensera pas la hausse que l'on peut attendre au troisième du fait de l'effet JO. Donc oui, le 1% de croissance, il est plus qu'un acquis d'une certaine manière. Il est déjà dans les chiffres et on ira peut-être un petit peu au-delà. Et donc c'est quand même plutôt quelque chose qui rapproche non pas la prévision du gouvernement au moment du projet de loi de finances, car quand celui-ci avait été voté, c'était 1,4% qui était attendu à ce moment-là par le gouvernement. Mais en tout cas, on se rapproche quand même très bien de cet objectif initial qu'avait donné le gouvernement. Oui.
Est-ce qu'il y aura dans tout cela un effet Jeux Olympiques ? Vous l'avez évoqué, il y a eu déjà un premier effet grâce à la billetterie sur le deuxième trimestre. Sur la deuxième partie de l'année, est-ce que, selon vous, on va sentir un effet de ces Jeux Olympiques sur la croissance française ?
Oui, au troisième trimestre, effectivement, du fait des conventions d'enregistrement effectuées par l'INSEE, eh bien, c'est au moment où se réalise l'événement que sont prises en compte les impacts économiques associés à celui-ci, avec un contre-coup en revanche. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous montez le niveau de la dépense qui est associée à la billetterie, qui est associée à la vente des services de télévisuels, notamment. Mais en contre-coup, au quatrième trimestre, vous ne les avez plus. Donc ça, ce sont des éléments qui sont positifs. Mais attention, on parle bien ici d'éléments qui sont de nature ponctuelle, qui soutiennent l'activité, mais qui ne disent pas forcément grand-chose de la dynamique sous-jacente. Et celle-ci, elle est peut-être plus sûrement reflétée par le fait que depuis un an, enfin quand vous regardez depuis un an, la demande privée, c'est-à-dire que quand vous prenez la consommation des ménages, que vous y ajoutez l'investissement des entreprises, l'investissement en logement, eh bien quand vous prenez ces postes-là qui rentrent dans la composition du PIB, vous vous rendez compte que ces postes n'ont pas du tout progressé depuis un an. Or, ce sont bien ces postes-là qui font la dynamique intrinsèque de l'économie et la croissance in fine que l'on peut attendre d'une année sur l'autre.
Et c'est justement la principale ombre au tableau dressée par l'INSEE, la consommation des ménages. C'est traditionnellement le moteur de l'économie française qui fait tourner la machine. Et là, la machine est à l'arrêt, la consommation est restée stable au deuxième trimestre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français continuent de se serrer la ceinture. Est-ce que c'est inquiétant ?
Alors, ils se serrent la ceinture et ils privilégient l'épargne. C'est-à-dire qu'il y a toujours une aspiration à l'épargne qui est extrêmement importante du côté des ménages. On est toujours à des niveaux de taux d'épargne très élevés quand on regarde par rapport à la situation que l'on avait préalablement au Covid, de l'ordre de 2,5 à 3 points de taux d'épargne en plus par les ménages que ce que l'on avait avant le Covid. Donc ce sont vraiment des points qui sont très significatifs, alors même qu'on est dans un moment où les salaires, la progression des salaires est en train de rattraper le retard qu'elle avait pris par rapport au niveau par rapport à l'évolution passée des prix. L'inflation a ralenti, mais les salaires ont embrayé avec retard. Et ce retard est en train d'être comblé. Et donc, on est en train de retrouver des gains de pouvoir d'achat sur les évolutions de salaires. Donc, on pouvait s'attendre à ce que la consommation redémarre un petit peu du fait de cette augmentation de pouvoir d'achat des salaires. Pour l'instant, on n'y est pas parce qu'il y a toujours un privilège accordé principalement à l'épargne.
Donc ça va revenir potentiellement mécaniquement dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour permettre à cette confiance de revenir ?
Alors, peut-être d'avoir un peu une éclaircie sur ce qui se passe dans l'environnement économique, parce que ce qui va être quand même déterminant dans les prochains mois, c'est ce qui va se passer, me semble-t-il, sur les décisions de dépenses des entreprises, les décisions d'investissement, les décisions d'emploi. Le point qui me semble être le plus significatif à suivre dans les prochaines semaines va être le nombre de déclarations d'embauche que l'on a. L'URSSAF, qui suit ces déclarations mois après mois, a d'ores et déjà montré qu'en juin, donc premier mois marqué par un attentisme, on était entre les élections européennes et l'annonce de la dissolution, et le premier tour des élections législatives. Et à ce moment-là, on a vu quand même très fortement ralentir les déclarations d'embauche. Donc ce que l'on a eu jusqu'à présent, ce qui a soutenu jusqu'à présent le pouvoir d'achat du revenu des ménages, parce qu'il faut garder à présent à l'esprit que le pouvoir d'achat au global des ménages a progressé. Il n'a pas progressé pour les salariés qui étaient déjà en poste, mais comme il y a eu plus de salariés, eh bien le pouvoir d'achat a progressé par l'augmentation de l'emploi. Désormais, le pouvoir d'achat, il va progresser plus par l'évolution des salaires. Le risque est de voir un ralentissement tellement fort de l'emploi que celui-ci pourrait l'emporter sur la dynamique salariale qui peut s'installer désormais. Donc on est sur des jeux de vases communicants qui s'établissent pour l'instant sur l'évolution des revenus des ménages, et la fragilisation de l'emploi peut être aussi un second mode d'attentisme à ce moment-là, un second motif d'attentisme, pardon, à ce moment-là pour les ménages.
Est-ce que l'autre risque qui peut peser sur l'économie française sur la deuxième partie de l'année, ce n'est pas cette incertitude politique qui s'installe et cet immobilisme depuis le mois de juin ?
Oui, c'est le risque principal. On voit que sur les intentions d'investissement, il y a eu les chiffres des indices de climat des affaires qui sont sortis la semaine dernière, indices de climat des affaires mesurés par l'INSEE, qui montraient qu'il y avait eu une dégradation qui était très homogène et très nette entre les entreprises. C'est du climat des affaires, donc c'est de la donnée qualitative, c'est de la perception exprimée par les chefs d'entreprise, mais cette perception, il faut voir dans quelle mesure elle va se traduire en décision d'investissement, en décision d'emploi, et c'est pour cela que j'insiste sur cette mesure de nombre de déclarations d'embauche, parce que c'est vraiment ça qui nous donne le là quant à ce que font véritablement les entreprises. Et les tout premiers signaux que l'on a, c'est qu'il y a quand même un attentisme un peu plus fort qui se dégage, et beaucoup plus de prudence qui va se faire du côté de l'investissement. Investissement qui, d'ailleurs, quand on prend sur un an, investissement des entreprises, qui est en recul. Il a progressé un tout petit peu au deuxième trimestre, mais après deux trimestres de baisse, et sur un an, il est en train de reculer. Signe que les entreprises sont placées dans un mode quand même prudent d'ores et déjà.
Dernière question, Denis Ferrand. Dans le même temps, l'Allemagne voit son PIB reculer de 0,1% sur ce deuxième trimestre. Est-ce que cela peut être préjudiciable à la France ? On sait que c'est l'un des partenaires commerciaux principaux de la France. Est-ce que la France peut vraiment repartir si l'Allemagne est à la peine ?
Alors, c'est certain qu'on s'en sort toujours mieux quand notre principal partenaire commercial progresse, enfin voit ses importations progresser. Donc oui, l'Allemagne a toujours ses problèmes industriels extrêmement lourds à Et nous avons quand même aussi d'autres voisins. L'Italie a une progression du PIB qui est similaire à la nôtre au deuxième trimestre. L'Espagne fait 0,8% de croissance et l'Espagne est sur une dynamique de croissance quand même assez ferme depuis désormais quelques trimestres. Donc, c'est aussi un motif pour rechercher en dehors du premier partenaire habituel d'autres leviers de croissance qui semblent peut-être se dessiner un petit peu plus au sud.
Merci Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode, d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business.